Chaque année, le mois d'août offre une occasion en or d'observer des étoiles filantes. Il s'agit du phénomène des Perséides. On en discute avec l'astrophysicien coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Robert Lamontagne. Bonjour, Monsieur Lamontagne.
Bonjour.
D'abord, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est exactement une étoile filante?
En fait, ça n'a rien à voir avec les étoiles, sauf pour le nom.
Oui.
Les étoiles filantes, ce sont des petits grains de sable, des petits cailloux qui brûlent dans la haute atmosphère terrestre. Donc, tout au long de l'année, la Terre tourne autour du Soleil. Et là, j'espère que j'apprends rien à personne.
Non, ça va.
Donc, la Terre tourne autour du Soleil et elle rencontre, tout le long de sa trajectoire, des petits nuages de poussière, de petits grains de sable, de petits cailloux. Et lorsqu'on traverse un de ces nuages, ben, ça crée ce qu'on appelle les pluies d'étoiles filantes. Mm-hmm. Donc, une multitude de petits grains qui brûlent, un par minute, un à tous les deux minutes. Donc, ça donne l'impression d'une pluie.
Et là, actuellement, on parle des Perséides au début du mois d'août. Qu'est-ce que c'est exactement ce phénomène-là?
Alors, donc, les Perséides, c'est fort probablement la plus connue des pluies d'étoiles filantes. Il y en a plusieurs, il y en a une bonne douzaine, là, qui se produisent régulièrement, année après année. C'est la plus connue parce que elle se produit justement en août. Les gens ont tendance à être davantage à l'extérieur, les nuits d'été. Si on s'installe à l'extérieur, c'est plus facile, il fait pas trop froid. Mm-hmm. Il y a d'autres pluies d'étoiles filantes, comme les Géminides ou les Orionides, qui se produisent à l'automne ou à l'hiver. Et disons que c'est moins confortable à l'extérieur pour regarder des étoiles filantes. Donc, c'est un phénomène qui se reproduit au milieu du mois d'août, généralement entre le 10 et le 15 août. Donc, à partir de ce soir et dans les prochaines soirées. Et la bonne soirée, si on peut dire, celle où le spectacle devrait être à son mieux, mm-hmm. c'est la nuit de dimanche à lundi.
Dimanche à lundi.
Jusqu'à environ minuit, on devrait avoir au moins une étoile filante à la minute, là, en tout cas. Je l'espère. Mm-hmm.
Je disais qu'il y avait une comète impliquée dans ce phénomène-là des Perséides. Est-ce que c'est effectivement le cas?
Oui, tout à fait. Alors donc, ces fameux nuages de poussière que la Terre rencontre, ils sont laissés par le passage de comètes au voisinage du Soleil. Et dans le cas des Perséides, c'est une comète qui s'appelle Swift-Tuttle. C'est une comète qui revient au voisinage du Soleil et de la Terre une fois à tous les 133 ans.
Okay.
Et donc, la dernière fois qu'elle est passée, c'est vers le milieu des années 1990, ce qui fait que depuis une vingtaine d'années, le réservoir a été rempli, il est bien plein. Mm-hmm. Et donc, les Perséides, depuis quelques années, sont un peu plus spectaculaires.
On a tendance à mêler un peu les comètes puis les météorites, puis on se le cachera pas, les films de science-fiction donnent un peu mauvaise presse à ces phénomènes-là. C'est quoi les principales différences entre une comète puis un météorite?
Oui, vous voulez pas aller voir un film de science-fiction avec moi parce que je pointe les erreurs et je hurle dans la salle.
J'en doute pas.
Je suis pas un bon public pour ce genre de choses-là. Ouais. Je suis très critique. Mais bon, les comètes, il y a toutes sortes d'objets dans l'espace. Évidemment, le Soleil, les planètes et les satellites naturels des planètes comme la Lune. Mais les objets de plus petite taille portent différents noms. Alors, dans le cas de ces objets, on retrouve les astéroïdes, les météoroïdes, qui sont plutôt des objets rocheux, les comètes, qui sont un mélange de glace et de roche.
Okay.
Et tous ces objets-là tournent autour du Soleil. Parfois, ils croisent l'orbite de la Terre. À l'occasion, il y en a un ou deux qui nous percutent, qui nous frappent. Quand c'est assez gros, quand c'est un objet de taille importante et de masse importante. Mm-hmm. Tout comme les étoiles filantes, il y en a une partie qui va brûler dans la haute atmosphère et ça crée un phénomène lumineux. Et comme c'est très brillant, on appelle ça un bolide ou un météore.
Okay.
Et s'il y a une partie de l'objet qui survit à la traversée et qui tombe au sol, ça devient une météorite. Alors, la roche que l'on retrouve au sol, mm-hmm. c'est ce qu'on appelle la météorite. Mais dans le cas de ces météorites, ça provient d'objets de très grande taille. Les Perséides, ça, ce sont des petits grains de sable, des objets de la taille d'un petit pois ou d'une amande, mm-hmm. et ça brûle complètement dans l'atmosphère. Okay. Tout au plus, il y a un petit peu de poussière qui tombe, mais on s'en rend pas compte.
Mm-hmm. Dans le cas de Swift-Tuttle, la comète dont vous parliez, bon, vous disiez dans les années 90, ça a été sa fois au 133 ans où est passé le plus près de la Terre. Est-ce que ça pourrait éventuellement nous percuter ou est-ce qu'elle passe vraiment loin quand même?
Elle passe vraiment loin. Les trajectoires des comètes sont assez régulières, tout comme celles de la Terre, et on peut projeter dans le futur s'il y a un risque de collision, et la réponse, c'est non. Il n'y a pas de collision potentielle entre la Terre et Swift-Tuttle sur un horizon de plusieurs centaines d'années.
Okay,
donc, de ce côté-là, on est assez en sécurité. Même, il y a quand même d'autres objets dans le cosmos qui peuvent nous percuter, et ils sont suivis à la trace, n'est-ce pas? Et les très gros, ceux qui pourraient causer beaucoup de dommages,
oui.
Il n'y en a aucun, sur un horizon de plusieurs centaines d'années, il n'y en a aucun qui est sur une trajectoire de collision. Alors, okay. ça va demeurer du domaine de la science-fiction pour l'instant.
Parfait. J'aime ça comme ça. C'est bien parfait comme ça. Si on veut bonifier notre expérience en fin de semaine, on peut utiliser des jumelles ou un télescope. Est-ce que c'est nécessaire d'investir pas mal pour que ça vale la peine? Ou est-ce qu'il y a des produits assez accessibles qui pourraient quand même nous donner un coup de main, là?
Dans le cas des étoiles filantes, on n'a pas besoin de jumelles et pas besoin de télescopes. On a besoin d'un horizon dégagé, un endroit hors d'une grande ville pour diminuer la pollution lumineuse, une chaise inclinable et puis possiblement une petite laine là, s'il fait un peu frais.
Là. J'allais dire un petit jus de pomme peut-être, un petit Pepsi Diet.
Oui, c'est ça. C'est exactement c'est tout ce dont on a besoin. Et le plaisir des étoiles filantes ou des perséides, c'est de le faire avec en groupe, la famille, les amis, parce que on regarde le ciel, puis on ne peut pas voir tout le ciel au complet. Alors, on peut faire une espèce de compétition. Il y en a un qui regarde côté sud, l'autre côté ouest. Et c'est celui qui va en voir le plus, finalement.
Si je veux gagner la compétition, est-ce qu'il y a un coin du ciel ou est-ce qu'il y a une constellation qui peut m'aider là, pour en voir le plus possible?
En général, c'est au-dessus de notre tête. Là. Si on regarde plus près de l'horizon, c'est moins intéressant, mais c'est vraiment au-dessus de notre tête, d'où l'idée de la chaise inclinable. Et comme le nom l'indique, les Perséides semblent provenir de la constellation de Persée, qui est du côté nord-est,
okay.
en début de soirée, là, à cette période-ci de l'année. Mais c'est vraiment au-dessus de notre tête. Qu'il faut regarder là au-dessus de notre tête en allant un peu vers le sud, ce sont les meilleurs endroits pour les regarder. Il faut être patient évidemment là. On peut être 5-10 minutes sans rien voir, puis à un moment donné on va en voir 2-3 d'un seul coup. Alors c'est aléatoire, mais en moyenne il y en a une soixantaine à l'heure.
Ah, quand même. Si on était prêt à faire un peu de route puis sortir de Québec pour notre soirée d'observation, c'est quoi l'endroit ultime dans la province pour regarder les Perséides?
Ah, ben, il y en a plusieurs. Évidemment, on peut penser à la réserve de ciel étoilé dans la région des Cantons de l'Est, là, autour de l'Observatoire du Mont-Mégantic.
Oui.
Ils organisent des soirées. Il y a aussi un autre endroit qui vient d'entrer en opération dans la région. Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Magog, dans ce coin-là.
Okay.
Mais sinon, la réserve faunique des Laurentides, Forêt-Montmorency, des endroits comme ça. Dès qu'on sort, il n'y a pas un endroit qui est meilleur qu'un autre, sauf pour peut-être les aménagements puis la facilité d'accès, mais un endroit où le ciel est sombre, c'est l'idéal. Et cette année, ça devrait être une bonne année, puisque aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, ce qui fait que demain, après-demain, dans les jours qui suivent, la lune, ça va être un tout petit croissant au début de la nuit, puis ça, elle se couche très rapidement.
Okay.
Alors donc, le ciel va être sombre. Alors, si c'est dégagé, c'est mieux pour avec un ciel sombre pour voir beaucoup plus d'étoiles filantes.
Excellent. Mais selon Environnement Canada, en fin de semaine, tant ce soir que demain soir et même dimanche à lundi, comme vous le disiez, c'est dégagé dans la région de Québec. Donc, ça va être des conditions idéales pour l'observation des Perséides. Merci, M. Lamontagne, d'avoir pris quelques minutes pour nous.
Toujours un plaisir.
Bon week-end. Robert Lamontagne, il est astrophysicien et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. On va pouvoir faire des vœux en fin de semaine. Il va y avoir une pluie d'étoiles filantes, environ 60 à l'heure, et des conditions idéales pour les observer.